Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue, c'est parti pour 2 heures d'infos avec vous et à la une, un invité exceptionnel. Tony Parker sera avec nous à 18h15. Sa parole est rare, la légende du basket se confie sur RTL. Il va nous raconter sa nouvelle vie d'homme d'affaires. Tipeee est difficile à suivre, bien-être, hippisme, vin, basket. Il investit dans toutes ses passions. Avec lui, on parlera aussi football et si il était le prochain président de l'OL. Et même politique, puisque son nom circule pour le ministère des Sports. Rendez-vous à 18h15. En attendant, eh bien votre journal est imminent. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et dans ce journal, jamais 2 sans 3, la tournée européenne de Céline Dion, de nouveau reportée. Et une nouvelle fois, sa santé en question. Dans ce journal aussi, des frais de mandat mal utilisés entre vêtements et restaurants. La députée LREM Coralie Dubost épinglée aujourd'hui. Et puis, le miracle alsacien, Strasbourg face au PSG ce soir en Ligue 1. Strasbourg qui peut encore croire à une qualification européenne. Les courses ce soir en nocturne à Rouen-Mocanchy. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 11, le 3, le 8, le 16, le 6, le 12... Hélas.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL qui s'interroge. Que se passe-t-il avec les bus électriques? Deuxième incendie sans raison apparente en un mois à Paris. La RATP les renvoie au garage. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu, les dessous du confinement drastique à Shanghai en Chine. Interdiction de sortir depuis un mois. Combinaison de cosmonautes et exil forcé des malades. 18h40, on va refaire nos régions. Comme chaque vendredi, 20 minutes sympa et près de chez vous avec Marion Calais.
Programme ce soir, Toulouse, quand la ville du rugby se passionne pour le foot, avec un conflit de voisinage détonnant en forêt d'Arcachon et une recette d'asperges avec un grand chef à Tours. À
19h15, ils refont la France, Amandine Bégaud et ses camarades de la presse étrangère. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Le programme.
On va parler politique, bien sûr, mais on parlera aussi 1er mai, fête du travail. Est-ce que les Français ont un rapport particulier avec le travail? Réponse à 19h15.
Et puis des points météo tout au long de l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
La tendance pour demain?
Alors pour le week-end, déjà on va tout miser sur demain justement, ce sera la journée la plus ensoleillée des deux. En tout cas, il fera plus frais tout le week-end.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et la tournée maudite. Pour la 3e fois, Céline Dion repousse son retour sur scène en Europe.
D'abord prévu à l'été 2020, ce Courage World Tour a fait les frais du Covid, puis de l'état de santé de la chanteuse en 2021 et en 2022. Donc ces dates, 6 notamment à Paris, sont décalées à l'an prochain. L'annonce tout à l'heure de Céline Dion interroge, alors qu'on l'a vu très amaigrie ces derniers mois. Mais elle a tenu, dans une vidéo, Monique Younes a rassuré.
Mais oui, elle est désolée. Céline, tellement attristée de repousser une fois de plus sa tournée, qu'elle prend la parole pour la première fois sur son compte Instagram. Elle apparaît toute de noir vêtue, le visage reposé, n'affichant plus la maigreur des dernières photos, et elle avoue
« J'ai toujours des spasmes musculaires. La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Je me dois d'être en pleine forme pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène. »
Pendant 3 minutes et 8 secondes, entrecoupées de longs silences inspirés quelque peu hollywoodiens, Céline Dion ne révèle rien de sa maladie, mais rend un hommage appuyé à ses fans.
Vous devez être tellement déçus, découragés d'attendre. Et sachez que les nombreux messages d'amour et de support que vous m'envoyez font partie de mon traitement médical.
Et la star surprend à la fin de son message en priant pour la paix en Ukraine. Est-ce qu'elle va réussir à émouvoir Vladimir Poutine? On l'espère, comme on espère la voir de nouveau à Paris en septembre 23.
Celle que les fans attendent.
Mais oui,
sans
on
doute.
L'adore.
Explication. Merci Monique Younes.
Allez, une autre femme dans l'actualité ce soir. Coralie Dubost, députée de l'Hérault et présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée. Elle est aujourd'hui pointée du doigt pour des dépenses excessives.
Oui, révélation de nos confrères de Mediapart sur la base d'un rapport interne de l'Assemblée qui porte donc notamment Valentin Boisset sur l'utilisation de ses frais de mandat.
Oui, elle a tout simplement explosé ses enveloppes de frais parlementaires, un peu plus de 5 000 euros par mois en temps normal avec des dépenses qui n'auraient pas grand-chose à voir avec son travail. Par exemple, en 3 mois, en 2018, elle aurait dépensé près de 8 400 € de vêtements, dont 500 € de lingerie, de l'argent public. Donc, il y a aussi, selon l'enquête, des dépenses dans des restaurants de plage à Palavas-les-Flots. Tout cela a causé un déficit de sa réserve parlementaire qu'elle a dû combler à l'aide de deux prêts contractés à la Banque Postale. Aujourd'hui, elle se défend chez Mediapart, affirme que ses habits sont des tenues de mandat et que ses restaurants sont des rendez-vous de travail.
Et il n'est pas question que d'argent dans ce rapport, Valentin. Le comportement de la députée avec ses collaborateurs est aussi évoqué.
Absolument. Et ce sont d'ailleurs eux qui ont sollicité ce rapport indépendant. Elle a eu 15 collaborateurs en 5 ans, un chiffre très élevé, avec des missions pour le moins particulières. Apporter ses affaires au pressing, surveiller son personnel de maison ou encore effectuer des tâches domestiques chez elle. Des missions inappropriées selon le rapport. La députée a depuis été entendue par la déontologue de l'Assemblée nationale. Aucune suite n'aurait été donnée à ce rendez-vous.
Valentin Boissé, merci. L'Assemblée prochainement renouvelée et en vue des législatives dont les Insoumis veulent faire une étape vers Matignon, la gauche tente de s'organiser. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
On a parlé ce matin d'un accord entre socialistes et Insoumis. En fait, il n'en est rien et les discussions sont même carrément interrompues.
Ben oui, parce que le fait que PS et LFI se soient rapprochés sur l'Europe ou l'âge de la retraite, par exemple, suscite une levée de boucliers chez une partie des socialistes. Et pour bien montrer qu'elle rejette par avance tout accord avec LFI, Carole Delga, la présidente de l'Occitanie, par exemple, investit des candidats sous l'étiquette PS. Du coup, la direction du parti a suspendu les négociations à la mi-journée. Elle insiste sur ce qui fait toujours problème, le rapport à la laïcité, la position sur l'Ukraine. Mais les discussions sont en revanche bien en cours cet après-midi avec Europe Écologie, qui est confiante sur le fait d'aboutir dès ce week-end. Pourtant, là aussi, il y a des divergences fortes sur l'Europe. Mais ce sujet faisant partie des prérogatives présidentielles, eh bien, il pourrait ne pas rentrer dans le périmètre de l'accord. Les discussions continuent aussi avec les communistes. Alors reste la répartition des circonscriptions, l'intitulé exact de la bannière commune. L'Union populaire, sigle présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, est trop restrictif pour les autres. Alors ce n'est pas encore bouclé, même s'il n'est plus totalement exclu que gauche et écolo défilent ensemble le 1er mai.
Voilà, à voir donc et à suivre surtout. Merci Marie-Bénédicte Allaire sur cette union à gauche, notamment entre socialistes et insoumis. Commentaire tout à l'heure du chef de l'État en déplacement dans les Hautes-Pyrénées. La carpe, ce n'est pas le lapin, soulignant notamment les divergences des deux parties sur l'Europe.
RTL, 18h07. En Ukraine maintenant, 65 jours de guerre désormais. RTL vous emmène ce soir dans la deuxième plus grande ville du pays, à Kharkiv.
Défigurée par plus de 2 mois de conflit, face à des bombardements incessants, les habitants de cette ville de l'est du pays se sont réfugiés sous terre. Et c'est donc dans les couloirs du métro que l'envoyé spécial de RTL, Marc Le Mans, est allé à leur rencontre.
Il y a des enfants, des vieillards, des animaux de compagnie et même des bouquets de tulipes pour égayer l'atmosphère. Les wagons du métro ont été aménagés pour en faire de petites chambres. Alina, elle dort sur une banquette. Elle a 16 ans et ça fait presque un mois maintenant qu'elle vit ici avec sa famille. Sous la terre, il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit, il y a seulement la lumière des néons.
Le matin, quand je me lève, il n'y a pas grand-chose à faire. Lorsque des volontaires viennent apporter de la nourriture, on va la chercher en haut, et puis on va faire une balade à l'extérieur s'il n'y a pas de bombardement. On joue aussi avec les enfants et on dessine. Mais la plupart du temps, il n'y a rien à faire ici.
L'adolescente décide d'aller prendre l'air et se pose quelques instants à la sortie de la station de métro. Elle profite des derniers rayons du soleil lorsque soudainement le ciel se brise. 4 missiles explosent. Descendez, descendez, hurle un policier. Tout le monde se précipite en bas, mais Alina, elle marche tranquillement avec un petit sourire. Ce n'était pas si fort que ça, assure l'adolescente. Elle a vu pire.
L'Ukraine, où une journaliste a été tuée hier lors de la frappe russe sur Kiev. Un Américain parti combattre là-bas également a été tué hier en Ukraine, tandis que 2 volontaires humanitaires britanniques ont été, eux, capturés par des soldats russes.
Allez, une pause et dans un instant, dans ce journal, une mise en examen pour homicide volontaire critiqué. Vous entendrez l'avocat du policier qui a tué 2 personnes en tirant sur une voiture dimanche soir près du Pont-Neuf à Paris. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal dans RTL Soir à 18h10. C'est une qualification qui ne passe pas chez les policiers. Celle retenue contre leurs collègues parisiens pour des tirs mortels. C'était dimanche soir, près du Pont Neuf, dans la capitale.
Si les proches des deux victimes ne font toujours aucun commentaire, l'avocat du policier, en revanche, fait part de son indignation après la mise en examen de son client pour homicide volontaire. Pour Laurent-Franck Liénard, les magistrats sont allés trop loin.
La qualification d'homicide volontaire supposerait que le policier se soit levé le matin et pris son fusil en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un ». Non, il a pas du tout envie de tuer. Il a envie de protéger les autres, il a envie de se protéger, il a envie de protéger ses collègues, et il ne tire que dans cet objectif. Et c'est pour ça que la qualification qui est retenue par le juge d'instruction me semble peu pertinente, inadaptée à un acte de police, puisque le policier ne veut pas tuer. Lui, il pense qu'il a tiré légitimement. Après, la légitimité d'un tir, c'est à la justice d'en décider en fonction des arguments que nous allons pouvoir développer. Donc nous aurons des années pour débattre de ces quelques secondes pendant lesquelles ce policier a pris la décision la plus dure de sa vie.
Dans quel état d'esprit est votre client ?
Il est dévasté. Il n'y a pas plus à en dire. Puis il est touché par la scène qu'il a vécue, parce que c'est une scène qui est d'une brutalité extrême. Et ça, il mettra beaucoup de temps à s'en remettre. Il n'a plus aucun repère.
Maître Liénard, joint pour RTL par Thomas Proutot. Lui va être incarcéré pour avoir dissimulé des fonds malgré sa faillite personnelle. L'ancien numéro 1 mondial de tennis, Boris Becker, a été aujourd'hui condamné à 2 ans et demi de prison. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h.
Nous parlons football maintenant. 35e journée de Ligue 1 ce soir avec le PSG sur la pelouse de Strasbourg.
Oui, alors le club de la capitale est déjà champion, mais pour les Alsaciens, il y a encore un enjeu. Ils sont seulement à 3 points d'une qualification en Ligue des Champions, et cela en étant seulement le 14e budget de Ligue 1 et tout juste 11 ans après avoir déposé le bilan. Yannick Collin, vous êtes à Strasbourg pour RTL, public, dirigeant. Il y a une recette miracle à Strasbourg.
Ah, c'est sûr que les moyens du Racing n'ont rien à voir avec ceux du PSG. Avec le salaire de Neymar, vous pourriez payer toute l'équipe de Strasbourg, mais il y a une telle cohésion entre les joueurs et avec le public que du côté des supporters, on y croit vraiment, quelle que soit sa génération.
Ouais, facile. Strasbourg est le meilleur. Paris, ils ont des stars que blessés.
Ils ne sont pas construits comme ça en quelques années. Il y a une vie là derrière, comme pas mal de grands clubs.
Strasbourg, en fait, c'est l'histoire d'une renaissance. Il y a 10 ans exactement, le club était tombé en 5e division, en amateur, repris par des actionnaires locaux, patiemment, et notamment parmi ses actionnaires, Marc Keller, le président actuel. Sur RTL, il nous avait expliqué l'ADN du club aujourd'hui.
Je pense que le fait d'être parti tout en bas a donné vraiment un coup de fouet dans cette passion qu'ont tous les Alsaciens pour le club. On veut une équipe avec beaucoup d'humilité, une équipe avec beaucoup de fierté, une équipe ambitieuse, une équipe qui avance, une équipe qui essaie de se créer des occasions, qui ne lâche pas. Et le public peut accepter d'ailleurs certaines défaites quand l'équipe donne le maximum.
Un public qui arrive à transcender les joueurs à la méno. Les stars parisiennes sont prévenues.
La passion alsacienne qu'on suivra ce soir, évidemment, dans RTL Foot à partir de 20h. Et puis, cette annonce ce soir, la retraite que prendra à la fin de la saison Maxime Médard, l'arrière international de Toulouse. Il l'a annoncé tout à l'heure.
Dès qu'il s'agit du stade toulousain, je vois que vous prenez l'antenne avec plaisir, cher. Avez le plaisir, comme vous dites, cher Marion. À tout à l'heure. Alors, le temps, Valérie, on mise tout sur demain, c'est ça, pour
ouais,
le week-end ?
Oui, parce que dimanche, sur la moitié nord, notamment, ce ne sera pas fameux. Non pas qu'on aura une grosse dégradation, mais ce sera quand même passablement nuageux. Alors, en attendant, demain, place au soleil. Un soleil peut-être un peu timide quand même sur le flanc est, où il faut attendre à 2-3 petits orages près du relief. Ce sera le cas aussi sur les Pyrénées. Pour les autres, quand même, la journée sera ensoleillée, mais les températures baissent. 4 à 17 degrés demain matin des Ardennes au Roussillon. 12 à 25 au meilleur de la journée, avec 18 à Paris, à Guéret, à Tarbes et à Besançon. Température à l'identique pour la journée de dimanche, mais donc avec un peu moins de soleil.
Merci Valérie.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Que se passe-t-il avec les bus électriques à Paris ? Un véhicule a pris feu sans raison apparente ce matin dans le sud de la capitale. Et c'est le deuxième incendie de ce type en un mois seulement. Conséquence, la RATP renvoie tous ses bus au garage momentanément, les bus électriques. Pour mieux comprendre, on va poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Gauthier Delambugard.
Bonsoir.
Ces véhicules électriques qui prennent feu, tout seul, sans accident, c'est inédit.
Absolument, la RATP exploite des bus électriques depuis 2016. Il y en a 500 aujourd'hui au total sur les routes d'Île-de-France. Il n'y a jamais eu d'incident majeur, nous assure l'entreprise, qui se retrouve donc pour la première fois face à ce type d'incident. Une série de bus 100% électriques, des bus récents, qui prennent feu pour des raisons indéterminées. C'est pour cela que la RATP a retiré rapidement 149 véhicules et lancé une enquête. Certains syndicats alertent désormais sur la politique de renouvellement des nouveaux véhicules. Alexis Louvet de Solidaire RATP.
On pense en effet que le renouvellement du matériel à marche forcée peut avoir des conséquences néfastes. Si vous voulez, l'objectif affiché par la RATP d'éradiquer petit à petit le diesel a été peut-être annoncé un peu vite et certains matériels qui ont été commandés, en tout cas, n'ont pas fait l'objet, à notre avis, des tests nécessaires.
Ces fameux bus, qui les fabrique ?
Eh bien, ces véhicules de dernière génération font tous partie de la série Bluebus 5 SE de la marque Bolloré. Il s'agit de bus made in France fabriqués en Bretagne par le groupe. Il y a plus de 400 Bluebus à travers le monde, la plupart à Paris. Certains circulent également à Rennes ou à Bruxelles. Dans ces deux villes, il n'y a à ce stade pas de retrait prévu. Le constructeur est désormais chargé d'enquêter pour déterminer les causes des deux incendies.
Les usagers qui sont en train de vous écouter dans les transports, Gauthier, ils se demandent s'il faut s'inquiéter.
Eh bien, il y a une inquiétude. L'Association des usagers des transports d'Île-de-France se dit très préoccupée. Et puis, il y a aussi cette crainte chez les conducteurs. Deux d'entre eux ont échappé de justesse aux flammes. Leurs représentants veulent donc savoir s'il s'agit d'un acte isolé ou d'un problème plus global sur la technologie de ces appareils et de leurs batteries. Mais il faut le rappeler encore une fois que ces incendies sont très rares et que la RATP reste extrêmement vigilante.
Les explications de la Brigade RTL. Merci beaucoup, Gauthier Delon-Bugard. Courte pause. Ensuite, notre invité exceptionnel, sa parole est rare, Tony Parker, la légende du basket, ses multiples business, son nom qui circule pour le poste de ministre des Sports, le plus hyperactif des retraités, Tipeee, se confie ce livre sur RTL. Juste après ça, restez à l'écoute.
RTL Soir, avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL Soir, bonne fin de semaine. Et maintenant, notre invité, c'est un invité exceptionnel qui va passer un petit moment avec nous. La légende du basket français, une légende du basket aux États-Unis, quatre fois champion NBA avec les Spurs de San Antonio. Notre invité ce soir est...
Trois points pour Tony Parker et la France passe devant.
Notre invité ce soir est donc Tony Parker, l'homme à cause de qui les commentateurs s'égosillent. Bonsoir Tony Parker.
Bonsoir.
Alors pour ceux qui vivent dans un monde parallèle, vous êtes retraité. Désormais, votre maillot
c'est
a
ça.
Même été...
Retraite sportive.
Retraite sportive a été retirée à San Antonio en signe de respect. Mais effectivement, retraité, ce n'est pas le bon terme. Parce que vous êtes un peu hyperactif quand même, on va y revenir. Vous êtes à Paris en ce moment pour promouvoir un de vos nombreux business. Vous vous lancez dans ce qu'on appelle l'économie bienveillante, si c'est possible, vous entrez au capital de Smart Good Things, ce sont des boissons bien-être, alors c'est tout nouveau et surtout c'est une entreprise qui détonne un peu dans le milieu parce qu'elle reverse 25% de son chiffre d'affaires en faveur de causes pour l'intérêt général. C'est quand même un concept très innovant dans le monde de l'entreprise.
Bah, c'est ce qui m'a attiré. Hein. Moi, je suis animé par ça maintenant. Je suis animé par la transmission. J'ai envie de redonner à mon pays. Et c'est comme ça que je choisis un peu mes investissements. Il y a l'éducation qui est très importante pour moi. Et on le voit à travers mon académie à Lyon et l'académie à Saint-Ouen qui va ouvrir après les Jeux Olympiques. Le sport et puis après l'art de vivre. Et donc, je réfléchis beaucoup à comment je pourrais avoir un impact, on va dire, sur la société. Et donc, quand j'ai rencontré Serge Bueno, le fondateur, et qui m'a expliqué un peu Smart Good Things. Donc une boisson qui est bien pour soi, mais aussi qui est bien pour les autres. Et en plus, on va aider des sujets où on pourrait avoir un impact. Et donc les deux, moi, qui m'ont touché, bah, c'est l'éducation, les jeunes, et après la femme, parce que moi, je suis ambassadeur de United Nations, donc j'œuvre pour l'égalité homme-femme. Et donc ça m'a tout de suite touché. Et donc au-delà de juste être un ambassadeur ou utiliser mon image, moi, je voulais investir, je voulais être un actionnaire, je voulais avoir un rôle pour accompagner et aider Serge dans cette vision que je pense est révolutionnaire. Ça va changer.
Quand vous avez stoppé votre carrière en 2019, vous avez eu cette phrase et vous venez de le redire, c'est intéressant. J'ai l'impression que je vais pouvoir avoir un impact sur la société. Là, cette société, quand elle reverse 25% de son chiffre d'affaires pour des causes, entre guillemets, ça veut dire quoi? J'ai lu qu'il y avait des projets de maintien à domicile des anciens, de lutte contre le décrochage scolaire. C'est déjà très précis.
C'est ça, ouais, c'est très précis. Vous venez de le dire, hein, c'est les trois volets, hein, c'est les anciens, les jeunes et la femme. Et donc à travers ces 25%, on va pouvoir choisir comment on peut avoir un impact.
Alors, vous voulez avoir un impact, mais c'est vrai que depuis que vous êtes devenu homme d'affaires, on a un peu de mal à vous suivre. Ça va très très vite. Donc, des boissons responsables maintenant, un domaine viticole, un élevage de chevaux, des remontées mécaniques à Villard-de-Lans. C'est quoi l'objectif ? Ne pas mettre tous ses œufs aussi dans le même panier ?
Oui, diversifier, mais après, ça commence déjà avec mes passions. Et j'essaie de m'associer à des personnes dont je peux apprendre. C'est-à-dire, dans le sport, j'ai eu la chance d'apprendre de Jean-Michel Aulas. Dans le business, et plus récemment, avec Michel Rébier dans le monde viticole avec le domaine de la mascarone et Jeeper. Et donc voilà, j'essaie de bien m'entourer et je me base sur ces trois pôles que je vous ai dit, quoi. L'art de vivre, l'éducation et le sport.
Vous parlez du vin, c'est vraiment l'investissement plaisir. Vous avez donc deux domaines.
J'ai grandi en France.
C'est ça, on est bien élevé.
J'adore bien manger, un bon vivant, donc ça m'a semblé logique.
Donc il y a un château en Provence pour du rosé et un domaine qui produit du champagne du côté de Reims. Est-ce qu'il y a eu aussi une frustration quand vous étiez joueur de basket pro ? On imagine qu'on ne peut pas déguster un verre de vin tous les jours quand on joue au NBA.
C'est clair que tu ne peux pas boire tous les jours. Mais j'ai eu la grande chance d'avoir un coach qui adorait le vin.
C'est vrai.
Et
Greg Popovich,
exactement, qui adorait faire des dîners, organiser des dîners. D'ailleurs, on organisait des dîners chez moi une fois par mois où on recevait les plus grands châteaux du monde entier. On a tous les Bordeaux, Bourgogne, Champagne. Et donc Popovich, il venait au dîner. Tu avais Boris Dieu aussi, mon coéquipier, qui adorait ça. Et donc, j'ai eu la chance quand même de bien déguster et prendre du plaisir pendant ma carrière. Là, maintenant, je suis allé au bout de ma pensée, quoi. J'ai carrément investi. Et donc, non, ça, c'est vraiment du pur plaisir.
À quel moment vous vous êtes dit, le business, c'est mon truc ? Parce que le basket, vous l'avez déjà raconté, à 9 ans, vous regardez les finales NBA, Michael Jordan, Magic Johnson, vous vous dites, OK, c'est ce que je veux faire. Moi aussi, je les regardais, je me suis dit, c'est ce que je veux faire, ça n'a pas fonctionné. Mais le business, à quel moment vous avez eu le déclic ? Vous avez senti que vous aviez la fibre ?
En fait, à 24-25 ans, j'avais fait une réunion avec Magic Johnson à Los Angeles et je voulais commencer à préparer mon après-carrière. Tu sais, tu as beaucoup de réunions deux fois par an par la NBA qui disent qu'il faut préparer son après-carrière. Mon père me disait souvent ça aussi, ma mère, pareil. Ma mère, c'était plus avec ma fondation, mes camps de basket. Et c'est là où ça a commencé, justement, la transmission, de redonner, de prendre ce rôle d'ambassadeur très, très au sérieux. Quand moi, je rêvais de Michael Jordan, je le prenais très, très au sérieux. Quand je voyais des jeunes porter mon maillot, je me dis, OK, maintenant, t'as des responsabilités et il faut faire attention. Et donc, c'est vrai que le business avec Magic, il m'a toujours donné un conseil que, même au jour d'aujourd'hui, je l'utilise toujours, c'est pendant que t'es en train de faire ta carrière, prends bien les numéros, rappelle les gens, parce que pendant ta carrière, ils vont te rappeler. Quand tu seras à la retraite, ils te rappelleront plus, tu vois. Ils vont t'oublier. Et donc, je l'ai pris très, très au sérieux et j'ai développé mon réseau. Et à travers mes passions, j'ai gardé contact avec des gens que je pensais qu'ils pourraient m'aider. Parce que moi, j'ai appris sur le tas. Moi, à 18 ans, j'ai arrêté les études. Et donc, à un moment donné, quand tu veux te lancer dans le business, j'ai l'impression que j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et tu repars à zéro. Parce que quand tu es dans le business, il n'y a pas de cadeau. Tu as beau être champion NBA, il faut faire ses preuves. Comme quand je suis arrivé aux États-Unis et ils me prenaient pour le petit mec, le petit français là, qui ne sait pas jouer au basket. Il fallait faire ses preuves. Et c'est pareil dans le monde de l'entreprise.
Alors, vous l'avez dit, vous avez envie de rendre quelque chose à la France. Et vous vous positionnez aussi politiquement, en France, vous faites partie de ces dizaines de grands sportifs qui, dans l'entre-deux-tours, ont appelé à voter Emmanuel Macron pour battre Marine Le Pen. C'était impensable pour vous de ne pas se positionner ?
Pour moi, j'ai jamais été politique. Je me suis jamais positionné. Mais à un moment donné, quand il y a des choses qui se passent et tu vois pas mal de choses, et en plus, moi, j'ai eu l'opportunité de le voir à l'œuvre. J'ai voyagé avec lui, j'ai vu pas mal de choses. Je suis l'ambassadeur du passeport. Donc, on a fait beaucoup de choses dans le sport. Il est très, très impliqué dans le sport. Donc, c'est vrai que ça m'a touché. Et donc, quand il a fallu le soutenir, j'ai fait partie de cette liste justement pour l'accompagner et le soutenir dans cette campagne.
On voit même fleurir votre nom dans les journaux comme potentiel ministre des Sports. Ça se refuse, ministre des Sports ?
Mais franchement, ça ne m'intéresse pas parce que je suis tellement impliqué dans mes business et j'aime tellement cette vie d'entrepreneur qu'aujourd'hui, je ne me vois pas faire de la politique. Et après, le soutenir, et tant que on a les mêmes valeurs, je continuerai à le soutenir parce que je suis ambassadeur de l'éducation pour les Jeux Olympiques. Je suis déjà ambassadeur du passeport, donc je vais continuer continuer à le soutenir. Mais pour l'instant, ouais, non, je ne me vois pas faire de la politique.
Alors, vous parlez des Jeux Olympiques de Paris 2024, ça arrive très vite. Alors, le basket français s'est un peu révolté ces derniers mois. Les vice-champions olympiques, ils n'étaient pas du tout d'accord pour jouer au Parc des Expos à Paris. C'est là où se tient, par exemple, le Salon de l'Agriculture. Finalement, la salle a été écartée devant la polémique. C'est un coup de gueule légitime ?
Bah oui, parce que c'est vrai que c'est pas les meilleures conditions. Après, on parlait des matchs de poule. Donc, si tu peux aider d'autres sports, moi personnellement, ça m'aurait pas dérangé parce que c'est pas facile de jongler avec tous sports et de faire plaisir à tout le monde. Tony Estanguet, il a quand même un job très très difficile. Ouais. C'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Après, je comprends pourquoi ils sont montés au créneau. Ouais. C'est les Jeux Olympiques, c'est à Paris, donc tu veux le meilleur. Tu veux que tous tes matchs soient à Bercy. Donc, je comprends un peu les deux côtés. Donc, voilà, nous, on a proposé la solution de faire à Lyon, de faire les matchs de poule à Lyon. Nous, on aura une salle neuve à Louvre en octobre 2023. Pour moi, tant que les phases finales, c'est à Bercy, je trouve que c'est ça le plus important. Quart, demi-finale, et si tout se passe bien, vu tout le talent qu'on a dans notre équipe, on sera en quart de finale avec l'équipe de France.
On l'espère.
Et on l'espère, exactement. Donc voilà, nous, on a proposé une solution. Après, c'est Tony Estanguet qui prendra la décision finale. Mais en tout cas, nous, notre salle, en plus, c'est une salle NBA, donc on sera prêt, quoi.
Alors, vous parlez de salle NBA à Lyon parce que vous êtes président de l'ASVEL, le club mythique de Villeurbanne que vous avez racheté. Vous avez vraiment les mains dans le basket français aujourd'hui, champion de France la saison passée. Vous êtes en tête de la saison régulière en ce moment avec d'autres équipes. C'est l'objectif, le doublé. Installer
Bien sûr, ça serait même le triplé, parce qu'en 2019, on a été champion. Il y a eu Covid, on a été champion l'année dernière. Donc, nous, on voit ça comme un triplé. Donc, bien sûr, c'est l'objectif principal. La concurrence est rude. En plus, cette année, Monaco, ils font une très, très belle saison. Donc, voilà, il va falloir être prêt. Ils ont faim, mais nous aussi, on sera prêt.
Alors, à l'ASVEL, vous couvez un gamin. J'ai envie que vous nous en parliez parce que la France entière risque de le découvrir dans les prochains mois. Il aura peut-être une trajectoire à la Tony Parker qui a émergé en France avant de devenir une star aux États-Unis. Victor Wembanyama, c'est pas très simple à prononcer, mais il a 18 ans. Alors, il ne joue pas à votre...
17 ans.
Il ne joue pas à votre poste parce qu'il mesure 2m19. Ça n'a rien à voir avec Tony Parker. Mais c'est qui ce phénomène ? Toute la planète basket est absolument extatique.
Et je pense qu'on va bien le connaître à partir de l'année prochaine, même s'il est connu du monde entier dans le monde de basket. Moi, je parle hors basket.
Ouais.
Je pense qu'il va être très, très connu parce que je pense qu'il va être le Français drafté le plus haut.
Alors, drafté,
donc, pour
ça
expliquer,
veut dire...
Voilà, à vos auditeurs, drafté, c'est en fait tous les clubs NBA, chaque année, ils peuvent choisir dans un pool de joueurs qui peut les renforcer. Et je pense qu'il va être numéro 1 de la draft. On n'a jamais vu un talent comme ça. Et il fait 2m19, comme vous venez de le dire. Il court comme moi, aussi vite que moi. Il shoot super bien. Enfin, il a tout pour lui. Et je pense qu'il peut être numéro 1 et battre tous les records.
Donc, il faut retenir son nom. Alors, vous parliez de Lyon. On sait que vous êtes proche de l'OL, le club de foot de la ville. Jean-Michel Aulas dit souvent, le président, que vous êtes son potentiel successeur. Ça vous tenterait, même s'il faut racheter l'OL ?
On verra bien. C'est pour l'instant, avec tout le respect que j'ai pour Jean-Michel, c'est toujours difficile pour moi de répondre à cette question-là. Maintenant, l'OL, c'est un peu la même famille, parce que l'OL Group ont une participation dans l'ASVEL. Ils ont 35% de l'ASVEL, 10% de l'ASVEL féminin. Donc, on travaille ensemble et on essaie de grandir ensemble. Après, Jean-Michel, moi, j'espère qu'il reste le plus longtemps possible. C'est peut-être le meilleur président des 30 dernières années dans le sport. Donc, maintenant, voilà, s'il me voit comme son successeur, je dis toujours, on verra bien. Moi, c'est clair que j'ai beaucoup d'activités. Moi, je suis en train un peu de tout consolider aussi. On verra bien. Mais moi, je le vois bien rester encore 3 à 5 ans. Donc, on a le temps. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Pour l'instant, je suis content à ma place.
Votre regard d'amoureux de l'OL sur la saison de Lyon qui est un petit peu compliquée et même très très houleuse avec les supporters. Il s'est fâché Jean-Michel Aulas le week-end dernier.
D'ailleurs, il m'a un peu surpris sur son interview. C'est vrai qu'il est un peu touché parce qu'il fait tellement pour ce club. Il est tellement amoureux de ce club. Et c'est vrai que des fois, c'est difficile de comprendre la réaction des supporters. Après, en même temps, je comprends que les supporters, ils sont très très déçus de la saison. C'est vrai que quand t'es l'OL, tu t'attends à être top 3 chaque année. Donc, je comprends un peu les deux côtés. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que de toute façon, ils ont un président, c'est incroyable ce qu'il fait pour ce club et il essaye de tout faire pour que le club soit le plus haut possible. Mais c'est vrai que cette année, on devrait être plus haut, ça c'est sûr.
Merci Tony Parker d'avoir passé un moment avec nous pour parler basket et business. Merci d'avoir été notre invité dans RTL Soir.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et RTL Soir continue dans un instant. On va se retrouver dans moins d'une minute, c'est promis, avec vos dessous de l'actu, les dessous du mois de confinement à Shanghai en Chine. Des malades exilés de force, des habitants qui ont faim. Gros plan sur cette stratégie zéro Covid si polémique. Et puis, laissez-vous tenter dernière. Et si on réécoutait un petit peu ce soir le grand Serge Reggianis.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé.
comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. 18h32 minutes.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et si vous vous branchez sur RTL, Marion Calais vous rappelle maintenant les trois grands titres de l'actu de la soirée.
La déchéance de l'ancienne gloire du tennis Boris Becker, condamné aujourd'hui à 2 ans et demi de prison, déclaré coupable d'avoir caché près de 3 millions d'euros pour éviter de payer ses dettes. Boris Becker, aujourd'hui âgé de 54 ans, va être incarcéré. La frappe d'hier soir sur Kiev, revendiquée par Moscou, une journaliste ukrainienne a été tuée. Et puis ce devait être 2020, ce sera finalement 2023. La tournée européenne de Céline Dion, de nouveau reportée, la chanteuse dit toujours souffrir de spasmes musculaires.
Le temps pour ce week-end, Valérie.
C'est pas trop mal encore demain. On va avoir un peu d'instabilité sur les régions du flanc est, près des montagnes essentiellement, ainsi que sur les Pyrénées. Pour les autres, du soleil, mais des températures qui commencent à baisser. 12 à 25 degrés demain après-midi de Dunkerque à Avignon, 16 pour Brest, 18 à Paris, 20 degrés à Chambéry, 22 à Bordeaux, 24 à Montpellier. Quant à dimanche, ce sera toujours un petit peu frais. Et en plus, la moitié nord perdra son soleil, mais on aura juste quelques pluies près de la Manche.
Merci Valérie.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir du confinement de Shanghai. La Chine est le dernier pays à appliquer la stratégie zéro Covid. Les 26 millions d'habitants de la mégalopole ont interdiction de sortir de chez eux. Et ceci depuis un mois à part pour aller faire un test PCR. Bonsoir Stéphane Pambrin.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le correspondant de RTL en Chine à Pékin. Racontez-nous à quoi ressemble ce confinement de Shanghai, parce que les mesures semblent drastiques.
Alors depuis Wuhan, hein, confiné début 2020, on n'avait effectivement jamais connu ici en Chine de confinement aussi strict. Alors au-delà du fait d'être enfermés chez eux, les habitants de Shanghai disent manquer de nourriture. Le ravitaillement est organisé par ce que l'on appelle les comités de quartier, c'est-à-dire des membres du Parti communiste qui sont là aussi pour surveiller que personne ne sorte. Mais la nouveauté, ce sont surtout ces gigantesques zones de quarantaine, hein, des parcs d'exposition, des immeubles de bureaux et même des containers transformés en sorte de léproserie où sont enfermés les malades et même les asymptomatiques. 95% des gens n'ont aucun symptôme, mais ils doivent rester dans ces bâtiments sans douche ni savon et collés les uns aux autres. Encore pire, certains enfants et même des bébés sont parfois séparés de leurs parents. Et quand on est positif, eh bien on est embarqué dans des bus manu militari pour des zones de quarantaine, parfois très très loin de Shanghai. Et effectivement, c'est comme ça depuis plus d'un mois.
Et Stéphane, comment la population, comment ces confinés de Shanghai réagissent ?
Alors écoutez un peu cette ambiance. Ce sont des habitants qui frappent sur des casseroles. Et c'est comme ça, presque chaque soir, aux fenêtres des gratte-ciel de Shanghai. Une manière pour les habitants de manifester leur colère. Et parfois, ça va plus loin. Hein. Certains forcent les barrages et essayent de prendre un peu l'air. Ils sont alors arrêtés et parfois battus. Sur les réseaux sociaux chinois, évidemment, tout cela est caché, censuré. Mais certains arrivent à contourner quand même la censure et publient toutes ces vidéos de colère sur Twitter, y compris celles de drones, hein, qui patrouillent entre les immeubles pour appeler les gens à se taire. Et certains officiels commencent même en Chine à accuser des forces étrangères d'être derrière ces manifestations, évidemment sans preuve. Hein. Les gens n'ont pas besoin de cela pour exprimer leur ras-le-bol. Mais la police militaire, en tout cas, a été déployée à Shanghai.
Ailleurs en Chine, Stéphane, est-ce que d'autres zones sont confinées ?
Écoutez, on estime que plus du quart de la population est confinée de façon plus ou moins stricte. Ça représente près de 380 millions de personnes en Chine. Hier, c'est la grande ville du sud de Canton, hein, qui s'est retrouvée confinée pour un seul cas détecté à l'aéroport. Tout le monde est testé et l'aéroport a été fermé en attendant les résultats. Ici à Pékin, on vit un peu suspendu aux annonces. Hein. Les 23 millions d'habitants de la capitale sont testés toutes les 48 heures. Les écoles ont été fermées depuis jeudi. De même que les boîtes de nuit ou les karaokés, si populaires ici en Chine.
Les dessous des confinements très 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 drastiques en ce moment en Chine avec notre correspondant sur place Stéphane Pambrin. Merci beaucoup Stéphane.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
RTL 18h36 minutes.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, comme tous les soirs à cette heure-ci, c'est le moment de changer d'atmosphère en quelque sorte. C'est laissez-vous tenter, dernière, de riches idées pour occuper vos soirées. Tiens, on va vous inviter à réécouter un très très grand artiste ce soir. C'est Julia Molcou qui est avec nous. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
On célèbre un grand acteur et un grand chanteur français d'origine italienne.
C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'une ? D'ici, j'entends le chien.
Serge Reggiani était né le 2 mai 1922. Il aurait donc eu 100 ans dans quelques jours. Et à cette occasion, Universal sort un coffret complètement incroyable. 3 CD, dont un live inédit à Bobino en 66, et un DVD pour retrouver Serge Reggiani qui, par exemple, récite Baudelaire face à Denis Glaser dans Discorama. Écoutez cette archive, c'était en 68.
Enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu à votre guise.
J'aime pas beaucoup, beaucoup ça.
C'est magnifique, grand acteur de théâtre puis de cinéma. Finalement, Serge Reggiani est venu assez tard à la chanson.
Oui, plutôt parce qu'il va commencer à chanter après 40 ans. Et je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la chanteuse Barbara qui va le prendre sous son aile. Elle lui fera même faire ses premières parties. C'est chic ça.
C'est chic.
Faire les premières parties de Barbara quand on
sacré
commence.
Sacré concert, hein. Reggiani, Barbara, belle affiche.
Ça devait être pas mal. Serge Reggiani fait partie de ces très grands interprètes français. Et il a, je crois, quelque chose que beaucoup n'ont pas. C'est l'humanité. Une humanité sincère et tout entière.
Il suffirait de presque rien. Pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses.
Il suffirait de presque rien. Ou seulement du coffret Reggiani à 100 ans, puisque c'est le titre de ce merveilleux coffret qui vous est proposé et qui est sorti aujourd'hui chez Universal.
Courez l'acheter. Merci pour le cadeau, Julia Molko. C'est toujours un bonheur de réécouter Serge Reggiani. C'est toujours une grande émotion. Merci beaucoup pour ce laissez-vous tenter dernière.
J'entends déjà les commentaires. Et les jolies, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème.
Laissez-vous tenter, dernière.
Il faut malheureusement bien couper Serge Reggiani, mais RTL Soir se poursuit dans quelques secondes. On va refaire nos régions. Les 20 minutes positives, près de chez vous, comme chaque vendredi. Au menu, Toulouse, la ville du rugby qui devient tout foot. Un conflit de voisinage détonnant en forêt d'Arcachon. Et une recette d'asperges avec un grand chef, s'il vous plaît, à Tours. A tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.